Vous écoutez France Culture.
9h07, vous êtes sur France Culture, la fabrique de l'histoire avec Emmanuel Laurentin. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Nicolas, merci pour ce journal et pour ces nouvelles. Et aujourd'hui, vous le savez, on fait très exactement la parution, il y a 50 ans, d'Astérix le Gaulois dans un numéro de Pilote. Et nous terminons donc notre série consacrée aux fantasmes, pourrait-on dire, aux rêves sur les Gaulois tels qu'ils ont été émis par nos ancêtres au 16e, au 19e ou encore, très récemment, il y a 50 ans, par Uderzo et Goscinny. Tandis qu'un menhir, un faux menhir bien entendu, trône sur la place de la Concorde au pied de l'obélix, eh bien nous allons donc parler d'Astérix aujourd'hui, après avoir montré depuis lundi comment la Gaule était, nous disait hier Laurent Olivier, une outre à fantasme au 16e siècle, c'est ce que nous avons expliqué mardi, au 19e siècle, c'est ce que nous avons voulu dire dans l'émission d'hier. Nous allons donc aujourd'hui nous attacher au dernier avatar du rêve collectif sur les Gaulois, c'est-à-dire Astérix, car après avoir été un peuple délibératif, c'est ce que disaient les juristes du 16e siècle, après avoir été ce peuple de l'origine dont rêvèrent les historiens du 19e. Voilà donc que Goscinny et Uderzo inventèrent le Gaulois revêche jamais vaincu, alors que le général de Gaulle venait tout juste d'arriver au pouvoir. Il y a 15 jours, une journée d'études se tenait à Bobigny, organisée par l'Université de Paris 13 pour rendre hommage à Uderzo qui habitait à l'époque dans un immeuble de cette ville. Et qui a-t-on dit ? Eh bien que le héros français par excellence avait été conçu par deux fils d'immigrés, Goscinny et Uderzo, ou comment la Gaule, dans sa plasticité, accueille encore une fois l'air du temps. Astérix, fils du 9-3, un documentaire d'Anaïs Quien et de Véronique Samouilov, exceptionnellement le jeudi au lieu du mardi, dans la fabrique de l'histoire, jusqu'à 10h ce matin.
Alors vous allez voir, je commence toujours d'une façon particulière, je commence toujours par dessiner le nez. Oui, ça c'est le nez qui va donner la proportion du personnage. Alors les yeux, bien sûr. Tout le monde voit ?
Vous connaissez Astérix, monsieur ?
Oui.
Qui est-ce ?
J'en sais rien.
Tu connais Astérix ?
Oui.
Qui est-ce ?
C'est un Gaulois.
Ben, je pense que c'est un petit personnage par Walt Disney, quelque chose comme ça.
C'est un Gaulois.
Un Gaulois très très fort, très gros, qui est tombé dans un bosseau magique quand il était petit. Ah non, c'est son, oui. Non, c'est son copain.
Astérix, qu'est-ce que ça veut dire d'abord?
Astérix, c'est un peu tout le monde, quoi.
Et vous, que pensez-vous d'Astérix?
René Goscinny.
Présent.
Albert Uderzo.
Présent.
Vous êtes l'un et l'autre les pères spirituels du Gaulois Astérix qui a eu cette semaine les honneurs de la télévision scolaire. René Goscinny, vous êtes l'auteur de quoi, vous ?
Moi, je suis le scénariste d'Astérix le Gaulois.
Par conséquent, Albert Uderzo, vous êtes le dessinateur.
Pourquoi Bobigny organise cette journée consacrée à Uderzo, ou en tout cas participe à l'organisation de cette journée ?
Parce qu'on est très fiers que Astérix ait été créé à Bobigny. Et c'est une réalité qui rencontre aussi une autre réalité, parce que vous savez qu'à quelques pas de l'endroit où a été créé le petit bonhomme irréductible, eh bien on a découvert un village gaulois et une nécropole unique en France. Donc je trouve ça extraordinaire. Et je pense qu'il ne fallait pas passer à côté de cette occasion de faire qu'un petit héros de bande dessinée puisse rencontrer ses congénères à quelques pas de là, dans une ville aussi cosmopolite et irréductible que Bobigny.
Mesdames et messieurs, si vous voulez bien soit prendre place, soit vous rapprocher.
On m'a toujours dit qu'un petit croquis valait mieux qu'un long discours. Il fallait donc être assez bref. Je suis très honoré aujourd'hui, Madame le maire. C'est vrai que c'est très émouvant pour moi de revenir 50 ans après la création de ce petit personnage qui ne se doutait pas lui-même d'ailleurs, qu'on parlera de lui encore 50 années après. Et je regrette une chose, c'est que mon ami René ne soit pas avec moi pour se souvenir de ce moment extraordinaire. Merci d'être venu. Et puis, voilà.
Un cri de guerre.
De la potion.
De l'hydromel.
Des invasions.
Une serpe d'or.
Et des Gaulois.
Qui frappe fort. Un Jules César.
Un Goscinny.
Un Uderzo.
Un Toutatis.
De beaux barbares.
Et chaque fois,
de grosses bagarres.
Astérix, fils du 9-3, ou comment Albert Uderzo entra à l'université.
J'ai faim, je veux manger.
Le 15 décembre 2009, c'est l'université qui fête Astérix le Gaulois et ses deux pères, Albert Uderzo, venu pour l'occasion, et le défunt René Goscinny à Bobigny. Le célèbre duo, fleuron de la bande dessinée française, y est présenté comme un modèle d'intégration, puisqu'il ne faisait pas partie des Français dits « de souche », une véritable success story à la française des Trente Glorieuses. Depuis 50 ans, les aventures du célèbre village d'irréductibles gaulois parcourent la planète grâce à ses nombreuses traductions et n'en finissent pas d'être déclinées en de multiples produits dérivés, du stylo aux plus ambitieuses productions cinématographiques. Astérix est né en un quart d'heure dans une cité HLM de la banlieue rouge, à côté d'un cimetière musulman, et sans le savoir, au-dessus de la plus grande nécropole gauloise d'Europe, découverte en 1992. Tous les ingrédients sont donc réunis pour célébrer ce petit blond casqué et moustachu comme symbole de la promotion sociale des immigrés dans un haut lieu de l'histoire qui aurait fait la France.
Oui, moi, comme je préside, je ne peux pas vous accompagner pour aller chercher. Je pense que pas mal de gens arriveront en retard, donc je ne sais pas si on commence. Je vais peut-être poser mon sac quelque part.
Allez, à tout à l'heure, Obélix.
À tout à l'heure, Astérix.
Pascal Horry, vous êtes historien. Aujourd'hui, Albert Uderzo reçoit les honneurs de l'université. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette légitimation ultime ?
Je crois qu'elle est tout à fait méritée. J'ai toujours pensé à propos du couple Goscinny-Uderzo que ça faisait un peu penser au couple Prévert-Carnet. C'est-à-dire pendant longtemps, et encore beaucoup de gens le pensent, on a dit que le plus brillant c'était Prévert et que Carnet avait eu bien de la chance. Bon, c'est clair, Uderzo a le double inconvénient d'être le dessinateur par rapport à l'homme des textes, et d'autre part de survivre. Donc certains considèrent qu'il est moins bon, j'allais dire maintenant, que du vivant de Goscinny. En fait, ça a été un couple idéal. Et le succès d'Astérix, qui n'est pas la seule bande qu'ils ont faite ensemble, est tout à fait légitime. Et il est très bien qu'on rende aujourd'hui hommage à Albert.
Alors, un jour, Goscinny arrive pour prendre vos dessins.
Pendant l'hiver 1951... Ça me souvient parce qu'il faisait nuit de bonheur, je travaillais sous ma lampe.
Albert Uderzo s'entretient avec Annelise David, 1998.
Et je l'ai vu arriver ce garçon avec ses petits feux crépus, qui était mince comme c'est pas quoi. Nous avions 23 ans à l'époque. J'ai cru que c'était le coursier. Hein. Je ne pouvais pas me douter un seul instant que ça serait celui qui deviendra mon grand ami, mon frère même. En fait, il venait des États-Unis et pour moi, ça a pris tout de suite une aura extraordinaire parce que nous rêvions tous à l'époque d'aller travailler aux États-Unis.
Merci, chers collègues. Je vais donc prendre la présidence de cette séance jusqu'à l'arrivée du héros vers 12h15.
Université de Paris 13, bâtiment de l'illustration Amphi 600, le 15 octobre 2009.
Alors, Madame le maire, j'ai compris que Astérix, auquel on attribuait quantité de qualificatifs, résistant, aussi bien que franchouillard, etc., avait aussi une qualité qui résume tout, il était balbinien. Ça, c'est le premier acquis de la matinée. Voilà, on va procéder de la façon suivante, il va y avoir 5 interventions, je dirai quelques mots dans un instant, mais chaque intervention sera précédée, sauf erreur, d'une petite projection de documents Et on va commencer tout de suite, puisqu'il est prévu, trois courtes séquences.
Balut, vêtu de peau de bête, il bravait la tempête. Tulle, Tulle, c'était la loi des Gaulois. Il prenait la route pour chasser le mammouth et courir le guilledon. Il coupait le gui, mais à propos, où coupait-il donc le loup?
Voilà. Je crois que nous sommes déjà dans le bain. Je, sauf erreur, le chanteur numéro 1, c'est Rissé Barrier, qui est un auteur trop oublié maintenant, mais d'une grande qualité. Alors, on aura compris, cette journée, puisqu'il s'agit d'une journée, va considérer Astérix sous trois angles, rapidement. Le rapport à l'histoire de la bande dessinée. Je rappelle que Astérix est devenu très vite un phénomène social, puisque le premier album avait eu un premier tirage de 6000 exemplaires et 6 ans plus tard, l'album qui sort en deux jours exactement, est vendu à 1,2 million. Bon, là, ce n'est plus une question de succès, ça devient un phénomène social en France et à l'étranger. Deuxième ligne, le rapport à l'Antiquité. La chance extraordinaire de ces découvertes balbiniennes permet de reprendre la question du rapport d'une fiction historique à la supposée réalité historique. D'autant plus qu'il s'agit d'une fiction qui se veut comique. Donc on est vraiment dans un troisième cercle. Hein. Bon. Puis troisième ligne, le rapport à l'histoire de la ville, puisque le Bobigny des années 50, c'est quand même un exemple typique d'une croissance, mais aussi des problèmes liés à cette croissance. Et en même temps, Uderzo comme Goscinny sont des enfants de l'immigration. Je rappelle que Astérix, que certains ont qualifié, je le signalais tout à l'heure, de franchouillard, a quand même pour auteur deux enfants d'immigrés. Hein. Goscinny est un enfant d'immigrés, ses parents étaient nés en Russie, et Uderzo est un enfant d'immigré, ses parents étaient italiens. Ça me paraît important quand on parle de la signification française d'Astérix. Je trouve ça d'ailleurs très beau.
Quand il guerroyait, même les feuilles tremblaient, les femmes se jetaient à leurs pieds. Mais un beau matin, un sombre devin leur après-dit ça va barder. Tout près des menhirs, la troupe en délire, Astérix allait faire de lance. Vers Saint-Gétorix, un durin caïde étudia la carte de France. Bardé, casqué, un Jules nommé César arriva sur son char. Il leur a dit veni, veni, vidi, vici.
Alors, le dessin d'Uderzo est.
Patrick Gomer, critique et biographe de René Goscinny.
Il y a deux grandes influences dans le dessin d'Uderzo. Il y a une première influence qui est l'influence d'Edmond François Calvo. Alors Edmond François Calvo, on l'a un peu oublié. C'est pour moi un des génies de la bande dessinée française, je dirais de l'avant-guerre et surtout à partir des années 50. C'est le dessinateur, notamment juste après la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, puis dans les années qui suivent, d'une double album qui s'appelle « La bête est morte ». Qui est une sorte de grand ville, la Seconde Guerre mondiale, revue, corrigée à travers la bande dessinée. Un dessin flamboyant, d'une richesse, dans un style bon, anthropomorphique, donc avec des personnages animaux, avec une grande cigogne qu'on imagine que c'est De Gaulle, etc. C'est une très 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 grande force. Au-delà de ça, il y a également toute l'influence américaine. C'est-à-dire cette passion du dessin américain qu'il a pu découvrir notamment dans un journal belge qui s'appelle Bravo. C'est d'ailleurs très révélateur que quand on regarde les premiers travaux signés d'Uderzo, ils sont signés Al Uderzo. Avec voilà, et non pas Albert Uderzo. Donc je crois que les deux conjonctions ont fait que le dessin d'Uderzo a un dynamisme incomparable, souvent copié, mais pour moi inégalable, et à tel point que je vous dis, on qualifiait le dessin d'Albert Uderzo de trop américain. On était loin des canons, belgo-français classiques.
Ah oui, ça c'est vrai, les meilleurs serpes viennent d'Amérique, ça.
Oui, Amérique, c'est un cousin lointain.
Ah bon?
C'est celui qui a réussi dans la famille.
Ah, c'est ton cousin, l'Amérique?
Ouais.
Eh ben alors, allons-y.
Alors,
resituer, c'est que Astérix est créé quelques années après le traité de Rome. Donc on est dans le cadre d'une identité européenne en construction.
Nicolas Rouvière, historien des aventures d'Astérix.
La série est construite à un moment charnière de l'histoire. C'est-à-dire que Goscinny et Uderzo sont nés en 1926 et 1927. Ils ont connu le second conflit mondial durant leur adolescence. Ils en ont subi les contre-coups également via leur histoire familiale. Et il y a cet arrière-plan derrière. Donc il y a un idéal de civilisation qui est en train de se réaffirmer à l'orée des années 60. Et c'est pas pour rien qu'on trouve par exemple un pastiche du drapeau hitlérien dans Astérix et Lego. Et plus généralement, questionner la frontière toujours incertaine entre les barbares, la question de l'absolutisme du pouvoir et la fragilité de la démocratie. Démocratie villageoise, un petit peu anarchique et sympathique, mais je dirais que le fond de violence est toujours là, pas loin. Et donc, lutter contre les volontés de toute puissance d'un empereur, prolongé par ses légions, c'est une question qui est malgré tout intéressante à aborder.
Et qui interroge justement en permanence qui est le barbare de l'autre.
Exactement, c'est exactement ça. On est toujours le fou de l'autre ou le barbare de l'autre. Hein. Ils sont fous, ces Romains, mais les Gaulois aussi sont traités de fous, comme peut l'être le barde. Donc il y a un brouillage volontaire en fait des frontières, au niveau collectif sur la question du barbare et au niveau individuel sur la question de la raison. Et c'est ça, on tient quelque chose qui donne vraiment un pan d'universalité à cette série qui est d'une très grande cohérence par rapport à cette problématique.
Pique à droite, légionnaires. Aïe, aïe, mon pied. Ave, centurion.
Ave.
Ces deux hommes viennent de tout casser.
Alors mettez-les en prison.
Ah non, alors, non.
Silence, Gaulois. Hein.
Oh, je sens que je vais briser la péromène.
Ah oui, il va briser la péromène.
Oui, hein? Je vais briser la péromène.
Pax, messieurs, Pax.
Bien sûr, nous sommes inspirés de Vercingétorix et de tous les noms en X, en Biorix et tout
René
ça.
René Goscinny et Albert Uderzo, 1967.
C'est venu très vite, nous sommes bien amusés d'ailleurs à les inventer. Astérix, Obélix, c'est venu très rapidement. Puis il y a eu bien sûr Assurance Tourix, Panoramix, il y a eu tous ces noms en X. Maintenant, ça en devient pratiquement une manie, c'est-à-dire que les gens, quand ils nous téléphonent, ils demandent à parler à M. Uderzix ou Goscinix. C'est devenu, je crois, une manie nationale.
Et comment créer alors le personnage? Comment, pourquoi faire un petit, un grand, enfin, là,
ben
ça
justement,
posait
parce
quelques
que,
problèmes au départ.
Oui, voilà, nous avions, nous, Goscinny et moi, une conception assez différente de la bande dessinée humoristique, de ce qui se faisait alors, même il y a 8 ans. Et nous avons voulu faire l'antithèse du héros qui était courant de voir à cette époque-là, c'est-à-dire soit le petit jeune homme bien fait, très sympathique d'allure, de physique. Et justement, on a fait donc cette antithèse, c'est-à-dire un petit, gros nez, assez difforme, mais sympathique par sa drôlerie.
L'un plus que l'autre tout de même. Et alors nous nous sommes dit...
On ne dit pas lequel.
On ne dit pas lequel, bien sûr. Vous devriez le voir en noir et blanc, c'est curieux. Mais alors justement, nous avons pensé de faire un héros qui soit encore moins beau que nous. Et il y a une satisfaction aussi. Et en plus, on peut le rendre comique. Parce que quand un héros est trop beau, les gens qui sont moins beaux que lui lui en veulent un peu d'être beau. Moi, j'en veux à peu près à tout le monde, d'ailleurs.
Alors, vous, là, vous avez l'impression...
Alors là, quand même, tout de même, quand je le regarde, je dis...
On est heureux d'être commandé.
On est heureux d'être commandé.
Non, Obélix, non.
À travers eux, c'est une profession qui se met en scène.
Nicolas Rouvière.
Il ne faut pas oublier qu'avant René Goscinny, la profession de scénariste n'existe pas. C'est lui qui l'a fait reconnaître en tant que tel. Donc avoir un porte-parole aussi médiatique que lui, avec une verve comme, telle que la sienne, c'était extrêmement important et ça le dépassait également. Et c'était vraiment une chance pour toute une génération d'auteurs.
C'est lui qui fait reconnaître institutionnellement le métier de scénariste ?
Alors, il y a une charte d'auteurs qui s'est créée en 1956 qui rassemblait Albert Uderzo, René Goscinny, Jean-Michel Charlier et tout un petit groupe d'auteurs, j'ai envie de dire entre Bruxelles et Paris, hein, c'est là qu'ils se retrouvaient pour des rendez-vous réguliers. Disons que Goscinny, lui, est emblématique parce qu'il a été le bouc émissaire en 1956 pour les éditeurs. C'est-à-dire que c'est très simple, en fait, la World Press, la petite filiale éditoriale pour laquelle il travaillait, l'a tout simplement renvoyé parce que c'était le dernier engagé, en fait. Et derrière lui, deux autres auteurs ont démissionné dans la foulée, Jean-Michel Charlier et Albert Uderzo. Et c'est ce trio qui va se retrouver à la tête du journal Pilote dès sa fondation, mais plus largement en 1963, quand le journal est racheté par Dargaud pour un franc symbolique.
Il y a le succès de cette bande dessinée, Les Aventures d'Astérix, mais il y a aussi le succès des personnages qu'incarnent dans l'espace médiatique Goscinny et Uderzo, Patrick Gomer.
C'était l'avantage d'être ami avec des gens qui étaient passionnés de bande dessinée, mais qui avaient pour nom Pierre Tchernia, par exemple, voire Umberto Eco, voire Alain Resnais, voire toute cette mouvance des auteurs qui, finalement, avaient, on va dire, étaient nés à la fin des années 20, cette génération, années 20, début des années 30, qui ont découvert la bande dessinée à travers notamment le journal de Mickey vers 1934, donc avant-guerre, qui après, une fois arrivés à des postes responsabilité ou avec un cheminement intellectuel, on va dire entre guillemets sérieux, ont décidé de se repencher sur leurs tendres années. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qu'à partir des années 60, il y a toute une série de mouvements pour légitimer quelque part la bande dessinée, dans lequel j'ai cité Tchernia, j'ai cité Umberto Eco, j'aurais pu citer Evelyne Sullerot, la sociologue, Jean-Claude Forest, le dessinateur, et René Goscinny. René Goscinny a été un des premiers à véritablement défendre le rôle d'auteur. N'oublions pas qu'avant René Goscinny, c'est pas le seul, il y a eu Greg, hein, mais globalement, avant lui, le statut de scénariste de bande dessinée n'existait pas. Ça n'existait pas. Un auteur qui est un dessinateur qui décidait de faire appel à un scénariste pouvait très très bien le faire, mais sur ses propres deniers.
Désormais, les adultes traitent la bande dessinée avec beaucoup de sérieux. Un exemple, la conférence de presse hebdomadaire du journal Pilote.
15 décembre 1970.
583 du 7 janvier. Il nous reste 9 pages à programmer, plus 3 pages dans le 585 du 21 janvier. Je vous rappelle que le 583, nous avions dit la semaine dernière qu'éventuellement nous nous occuperions des scouts. Il y a déjà 2 pages de technique du scoutisme de Debeketch et Gousset et 2 pages sur la crise du scoutisme de Claire Bretéché. C'est un numéro dans lequel nous avons également 6 pages...
Vous venez aujourd'hui, Patrick Gomer, parler du rôle d'Astérix dans le magazine Pilote. Est-ce que ça a été un moteur pour le succès de cette revue ?
Et ô combien, puisque à un moment il est devenu le Pilote, le journal d'Astérix et Obélix. Mais les choses ne sont pas aussi simples et aussi claires. C'est-à-dire qu'au départ, on a un journal qui se veut une sorte de Paris Match pour jeunes, donc avec un mélange d'articles journalistiques sur la science, sur le sport, etc. Un peu d'illustrés, on parlait à peine de bande dessinée. La dernière page, c'est l'emplacement pratiquement privilégié de la série Astérix, mais c'est une planche parmi d'autres. Ce n'est pas la série moteur, contrairement à ce qu'on a pu dire. Et puis au fur et à mesure, au fil des années, et là, je dirais le grand tournant, ça a été véritablement 1965. Parce qu'à cette époque-là, le lectorat a changé, a commencé à prendre quelques années de plus, premier élément. Deuxième élément, il y a une production entre Goscinny et Uderzo qui est assez phénoménale, c'est-à-dire qu'ils doivent sortir à peu près l'équivalent de 4 épisodes en l'espace de 64 à fin 65. Ils ne dessinent pas 4 épisodes, mais il y en a 2 qui sortent en album. Et il y en a 2 qui sont prépubliés dans le support. Le premier satellite français s'appelle Astérix. On commence à assister véritablement à ce qu'on va appeler le phénomène Astérix. C'est-à-dire qu'on est dans l'air du temps. Voilà. Mais je crois que c'est vraiment une sorte d'alchimie. Ils sont arrivés au bon moment.
Avez-vous déjà entendu parler d'un jeune nucléariste nommé Durand Durand?
Oui.
Durand Durand est l'inventeur du polyrayon 4. C'est une arme.
Enfin, l'univers est pacifié depuis des siècles, non? Cela pourrait nous replonger en pleine chienlit archaïque et dans...
La guerre.
Comment? Cette sordide confrontation?
Simplement la guerre. Des mêlées sanglantes entre les tribus.
Je ne peux pas y croire. Il faut agir.
Oui. Et vous êtes la seule qui puissiez agir. Courage, Barbarella. Et... Love.
Love.
Mais qui êtes-vous, madame?
Que t'importe qui nous sommes. Abandonne-toi au plaisir.
Que désires-tu, beau guerrier?
Manger.
Nous avons du nectar et de l'ambroisie.
Oh, non! Oh, pas de ces cochonneries. Moi, je veux du sanglier. J'aime le sanglier, c'est bon.
Mais il n'y a pas de sanglier dans notre île.
Il n'y a pas de sanglier? Et vous voulez que je reste toujours dans cette île? Ça va pas, non?
Dis donc, le gros, tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non? Allez, du vent!
Et comment que je m'en vais partout, Tatis? Pas de sanglier! Et on ose appeler ça l'île du plaisir! Oh! Allez, viens, Astérix! C'est une gargote, ici!
Patrick Gomer.
Bon, il se trouve qu'un moment, c'était une expression que m'avait dit Jean Giraud, en disant un moment, on a suivi un petit peu le même chemin, et un moment, il y avait une porte, et Goscinny est resté à la porte. Il y a un côté très paternaliste qu'on retrouve chez Goscinny, plus que chez Uderzo d'ailleurs. Uderzo, c'est vraiment le créateur, pas du tout de Tour d'Ivoire, parce que c'est quelqu'un d'une humanité totale, mais il était, sur sa table de travail. Hein. L'homme public, c'était véritablement Goscinny. Et c'est vrai que les auteurs considéraient avec beaucoup de respect, voire parfois crainte, parce que les colères de Goscinny sont aussi légendaires, comme une sorte de papa, ou de papa bis, etc. Est arrivé un moment où il faut couper le cordon. Et à un moment, il faut aller de l'avant et dire « Ok, c'est bien, je renie pas ce que j'ai fait ». Mais on fait autre chose. Et évidemment, ça a été le début de l'émancipation des auteurs. Comme GB, Cabu et Rezer sont partis à Harakiri Hebdo, puis Charlie Hebdo. Donc, ils ont quitté Pilote. Ça a été le premier départ. Ensuite, on a parti en 1972, c'est la grosse cassure, avec l'écho des savanes. L'écho des savanes, c'est quoi? C'est scato, c'est porno. Autant dire que quand Goscinny a vu ça, il a dit... petit con, en gros, excusez-moi l'expression, mais c'était quand même un peu ça. Donc c'est vraiment la fin d'une époque. Ça, c'est 72. Et c'est pareil, c'est la roue qui tourne.
Pendant ce temps, dans le village gaulois...
Bon, il y a Anne Goscinny qui est là, vous savez. Hein. Anne Goscinny vient...
Pendant ce temps-là, on prépare l'inauguration d'une plaque célébrant la naissance d'Astérix sur la façade de la cité du Pont de Pierre, à quelques centaines de mètres de l'université.
Je connais ce genre de colloque, ça traîne, ça traîne.
Didier Passamonic, historien de la bande dessinée, est notre guide pour l'occasion.
Attends-moi, Vélix ! Je prends un peu de potion magique. Voilà. Et j'arrive !
Toujours dans les cortèges officiels, il y a du retard. Il arrive en taxi, paraît-il. Et donc, on a dû vous expliquer que l'endroit où on va, c'est l'endroit où, au mois d'août 1959, ils ont créé Astérix, hein, avec du pastis. Il faisait très chaud, paraît-il. Et au moment où le contexte est le lancement du journal de Pilote, qui doit sortir en octobre 1959, 29 octobre 1959, c'est la date officielle de la naissance d'Astérix, et il prévoit une bande dessinée, il prévoit de faire le roman de Renard. Donc ils doivent créer le roman de Renard, et au moment où ils le font, ils s'aperçoivent que quelqu'un l'a déjà fait avant eux, dans Vaillant, qui est quand même le grand journal communiste de l'époque, et pour eux, c'est impossible de refaire la même chose. Donc ils s'interrogent, ils se disent, mais on va faire un truc historique, mais on commence par quoi? Alors ils se disent, les hommes des cavernes, c'est déjà fait, parce que les Américains ont fait beaucoup d'histoires d'humour déjà dessus, les pierres à feu, tout ça. Et puis ils s'arrêtent aux Gaulois, et ça, c'est le point de départ. Donc c'est, au fond, Astérix, c'est quelque chose qui, au départ, est assez improvisé. Il n'y a pas de choix délibéré. Et l'ironie de l'histoire, c'est que à quelques centaines de mètres de l'endroit où ils vont créer Astérix, on découvre la plus grande nécropole gauloise d'Europe.
C'est plutôt un coup de chance, même.
Je sais pas si c'est un coup de chance, parce que je crois que déjà il y a une rue d'Alésia qui était à 50 mètres de chez eux. Donc il y a comme ça une convergence. Et de là à penser que c'est les mânes des Gaulois qui les ont inspirés, on peut toujours se dire ça. Comme j'expliquais dans ma conférence, on est dans une période de. On est dans l'après-guerre. Les Français sont en plein milieu des Trente Glorieuses. Il y a un mythe qui mérite d'être combattu, mais qu'on ne peut pas combattre. C'est le mythe de la résistance qui pèse vraiment sur cet après-guerre, hein, avec des gens comme Chaban Delmas, De Gaulle, etc. Donc la nouvelle génération doit un petit peu remettre en cause ce mythe-là. Et ça passe par la subversion. Ça passe par des éléments de subversion qui sont une relecture ironique ou amusée de l'histoire, et Astérix joue ce rôle. Je crois que c'est un des éléments importants de son. Voilà, la plaque, elle va être mise où, vous savez
elle est là.
Ah, elle est déjà là, en fait. Ah, oui. Ils sont en train d'installer la tente pour les officiels, d'accord. Okay. Voilà, il y a Uderzo qui arrive justement à l'instant. On va pouvoir. Il est accompagné de sa femme Ada Uderzo, qui a vraiment beaucoup de mérite parce qu'elle a des difficultés pour marcher. Elle est en béquille. Bonjour Ada. On va le saluer. Bonjour Albert.
Bonjour.
Ça va
J'en demandais pas tant. Quand on arrive 50 ans après, ça fait quand même un drôle d'effet, mais les bâtiments sont toujours les mêmes. Hein. Ouais. La nature a changé, la nature a beaucoup évolué. Hein.
Et vous viviez à quel étage?
Alors nous étions au 3 et nous étions au 3e étage.
Donc au coin un peu plus loin de cet immeuble.
Oui, l'avant-dernier étage. Et là, il a fallu trouver une idée très très rapidement. C'est ce que nous avons fait.
Albert Uderzo,
c'était dans
1998.
Dans notre petite salle à manger de notre HLM de Bobigny, face au grand cimetière parisien de Pantin. Je vous situe le cadre. C'était en plein été, donc c'était un cimetière assez gai, parce que très, très garni d'arbres, donc on ne voyait pas grand-chose, sauf en hiver. Et ça s'est fait très très vite. Hein. Quand je dis aux gens qui me posent la question et qui me disent « Vous avez dû faire des études, marcher, vous avez dû faire, avant d'entreprendre un truc comme ça, que nenni, comme disait l'autre », ça, tout s'est fait en un quart d'heure.
Alors bon, là, il y a eu cette discussion fameuse avec René, à savoir que moi, je voyais évidemment le personnage différemment. Je le voyais encore une fois avec l'image d'Épinal que se font les enfants sur le Gaulois, grand, fort, blond et beau.
Et lui
lui, le voyait au contraire, à l'inverse, petit, affreux, mais par contre, avec une malignité qui le sortait de l'ordinaire.
Mais il voyait un personnage, lui.
Il voyait un personnage.
C'est-à-dire celui qu'il vous a obligé à inventer.
Celui qu'il m'a obligé à inventer, précisément.
J'ai peut-être ramené les verres. Il est où, madame ?
Je suis là.
On va se mettre carrément au soleil, d'ailleurs.
On va dévoiler une plaque ici, à la cité du Pont de Pierre, en votre honneur et en l'honneur d'Astérix.
Paraît-il, je suis très honoré de ça. Loin de m'attendre qu'un jour, il puisse y avoir une plaque sur ce bâtiment... pour rappeler ce moment. C'est très émouvant pour moi. Hein. C'est évident que il y a 50 ans, on était loin de se douter, René Goscinny et moi, en passant cette porte. Heureusement d'ailleurs qu'on ne s'en doutait pas, parce qu'on aurait eu très peur. Vous savez, nous ne sommes pas retournés ici depuis 42 ans, depuis 67. C'est pour ça que ça fait un drôle d'effet. Je n'ai plus rien reconnu. Hein. Si j'avais dû venir moi-même en voiture, je me serais perdu complètement.
Non, j'ai pas froid, quoi.
On est arrivé ici en janvier 1958, et on a quitté cet appartement en 1967, 9 ans exactement. Donc, ouais.
On ne savait pas à l'époque qu'il y avait une nécropole gauloise juste à côté de votre immeuble.
Je viens d'apprendre ça, je ne savais pas du tout. Alors ça me poursuit, ça, parce que chaque fois que je m'installe quelque part, on découvre une nécropole gauloise. Décidément, ces Gaulois sont fourrés partout. Dans ma campagne, c'est pareil, j'ai une campagne dans les Yvelines. Et on m'a dit un jour, voilà, nous venons de trouver un four gaulois qui faisait des poteries à 2 km de chez moi. Pour vous dire que maintenant, je fais attention où je mets les pieds, parce que... dites-moi, il fait pas chaud, hein.
On va peut-être se mettre au soleil, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, c'est peut-être une bonne idée, oui. La petite rue qui coupe là-bas, c'est la rue Alésia, voyez-vous. Vous voyez qu'on était dans le bain, hein.
Elle s'appelait déjà la rue Alésia à l'époque ?
Oui, oui, oui. Ouais. J'aurais espéré qu'il l'appelle la rue Fergovie, ça aurait été quand même mieux. La rue Alésia, c'est plutôt une défaite, hein, de Vercingétorix. Vous auriez vu ici, il n'y avait que des petits poulbeaux qui s'abusaient dans cette rue, là, c'était formidable. Et c'était étonnant, il y avait un gamin qui était plus malin que les autres, il avait déniché des vieilles voitures d'enfants, vous savez. Et tous les gosses montaient dans ces petits wagons improvisés, quoi.
C'était de vieilles poussettes ?
Des vieilles poussettes, voilà, exactement.
Bonjour, je ne sais pas si vous vous souvenez.
En 58,
comment est arrivé Madame Sebag. Le fils de Madame Sebag, elle parlait longuement avec la maman. Toujours quand elle promenait, elle lui parlait de ses lampadaires qu'elle faisait avec les bouteilles. Et tout. Ouais. Ça me fait plaisir que vous n'ayez pas oublié.
Vous voyez, on m'a invité.
Ça, c'est Gros qui avait fait l'accident quand elle était petite. Elle avait été renversée par une voiture, vous vous souvenez? Ah ben voilà, et c'est elle, elle s'est occupée de la maman et tout.
Oui, mais je me souviens bien.
Bonjour.
Tu te souviens de cet accident?
Vous êtes... Qui c'est, madame?
C'est pas Madame Uderzo?
Oui.
Oh,
oui, c'est mon épouse.
Et je disais, je connais.
Mais
n'ayez
crainte.
Vous n'êtes pas à vous parler avec la maman.
Vous habitez toujours là, oui.
Moi là, et la maman. Ah oui,
toujours.
Ah,
je suis très contente de vous revoir.
Anne Goscinny, vous n'étiez jamais venue sur le lieu de naissance d'Astérix?
Mais non, je dois dire que non, et c'est très émouvant de penser que qu'Astérix est né ici, que mon père est venu souvent ici. Avec Albert, ils se sont bien marrés et je trouve ça très émouvant.
Il y a des rues Goscinny, des écoles Goscinny.
Il y a beaucoup de rues, il y en a une à Paris notamment, dans le 13e à côté de la BNF. Il y a des écoles, il y a des lycées, il y a des collèges, il y a des médiathèques, des centres culturels, des bibliothèques. Et il y a surtout le lycée français de Varsovie qui porte son nom.
Et dans le 13e, la rue Goscinny se trouve entre la rue Thomas Mann et la rue Primo Levi.
Ouais. Je trouve ça un voisinage plutôt chargé de sens. En tout cas, moi, qui me fait très plaisir. La montagne magique.
Et vous allez assister à toute cette journée consacrée à Uderzo ?
Je vais assister au dévoilement de la plaque. Et puis après, je crois qu'il y a un truc à l'université. Et après, je retournerai du côté de chez moi parce que j'ai 2 enfants qui ont 6 et 8 ans. Et il faut assurer le judo.
Voilà. Judo ?
Oui, parce qu'après, on a judo. On a judo. Et il faut être dans la vie parce que c'est bien de dévoiler des plaques et puis c'est bien d'emmener les petits au judo.
Bonjour madame.
Bonjour madame.
Monsieur Uderzo, il habitait là.
Et vous l'avez connu?
Je l'ai connu. On est les deux. Tout le monde est parti. Tous les Français sont partis. Et on est resté. Après, elle a trouvé son mari monté de grade et tout. Et... Alors, elle habite évidemment dans des beaux quartiers.
Ada Uderzo, la femme d'Albert Uderzo.
Voilà.
C'est ça.
Elle est très gentille, la vérité. Elle aimait parler aux gens. Elle n'était pas retirée du monde, non. Quand on se rencontrait, on restait des heures à parler. Dernièrement, elle m'a dit, j'ai fait un bel abat-jour pour ma table de nuit. C'est des gens simples, hein. Et ils sont montés de grade, Dieu est grand. Il y a des histoires de partout. Hein.
Et vous êtes arrivé à quel moment ici à Bobigny?
58.
C'était pas compris, il n'était pas.
C'est pas fini?
Non. La pelouse derrière, là, c'était de la boue. On nous livrait le lait par les charrettes, tout ça. Depuis 58, je suis là. Je suis la seule. Je me trouve bien.
Et vous veniez d'où ?
Je viens de Sfax, Tunisie.
Et vous vous appelez comment ?
Madame Sebag Marcel.
Mesdames et messieurs, je vous invite à vous rapprocher, s'il vous plaît.
Catherine Page,
mesdames, messieurs, chers amis,
maire de Bobigny.
Dévoiler une plaque est toujours pour moi un moment d'émotion particulière, car il s'agit de placer une partie de l'espace public sous le haut patronage d'une personnalité admirée. Ce sera bien sûr le cas aujourd'hui. Mais cette émotion est marquée d'un sourire tendre et complice, puisque l'esprit des lieux que nous convoquons aujourd'hui a pu s'incarner dans un petit bonhomme souriant, malicieux et fort de la force de ses amis, des amis sûrs et dévoués. C'est à deux pas d'ici que le malin Astérix, patriote et roublard, a vu le jour grâce à deux pères exceptionnels, Albert Uderzo et René Goscinny. L'historique légende affirme qu'Uderzo et Goscinny, en fumant quelques cigarettes, j'espère pour l'histoire que c'était des Gauloises, et en sirotant un pastis, ont conçu Astérix. J'aime à imaginer qu'accoudés au balcon, ils ont été inspirés par les mânes de centaines de Gaulois qui reposaient dans la plus grande nécropole gauloise jamais découverte, juste sous la fenêtre du dit balcon. À Bobigny, une fois de plus, la réalité a dépassé la fiction. En 1959, créé par Albert Uderzo et René Goscinny. Albert Uderzo résidait alors à cette année.
Exactement. Et au troisième étage.
Et au troisième étage, voilà.
C'est marrant, avec les petits garçons là.
Bonjour. Est-ce que tu sais ce qu'on vient de faire là ?
Vous venez de mettre une pancarte. En argent, je crois.
Mais c'est juste à côté de ma fenêtre.
C'est bien pour moi.
Mais tu savais qu'Albert Uderzo avait vécu ici ?
Je savais pas qu'il avait vécu ici. Je croyais que c'était un bâtiment comme les autres. Mais c'est pas un bâtiment comme les autres. Au revoir.
Venir vers le bâtiment du bâtiment, il y a une cérémonie de remise de doctorat d'honneur.
Psychedella, there's a kind of cockle shell about you. Barbarella,
Barbarella. Retour au bâtiment de l'illustration, où le dessinateur Albert Uderzo s'apprête à recevoir un doctorat d'honneur, à devenir un gradé de l'université. Nous y retrouvons Patrick Gomet.
C'est vrai que ça correspondait à un changement d'époque. Hein. Le fait où la bande dessinée n'était plus considérée comme un pouce au crime, mais petit à petit était légitimée et surtout s'insérait dans un ensemble beaucoup plus large qui est la contre-culture, dans lequel on va effectivement après retrouver la science-fiction, le rock, etc.
Quand on parle de bande dessinée contre-culturelle, on pense plutôt, par exemple, à Fourest et à Barbarella, qui s'inscrit vraiment dans le chromo de la contre-culture de la fin des années 60. On ne pense pas forcément à Astérix et à Uderzo et Goscinny.
Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, alors, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que Fourest et Goscinny, c'était l'eau et le feu. C'était vraiment deux conceptions différentes et surtout deux personnalités. Et je crois qu'il y a un des clashs, parce que c'est aussi l'autre côté de Goscinny qui est peut-être un peu moins glorieux. C'est quelqu'un qui ne supportait pas, par exemple, trop de concurrence et certaines personnalités, ce qui sera notamment le cas de Forrest. C'est-à-dire que Forrest avait une telle notoriété via Barbarella. Hein, alors là, vous parliez médiatique, mais avec, si on y rajoute le film de Vadim, Barbarella était à un moment sans doute au moins aussi connu qu'Astérix. Forrest m'a raconté que le jour où il a rencontré Goscinny, il a dit, enfin Goscinny lui a répondu, si ça ne tenait qu'à moi, je ne vous aurais jamais publié. Mais vous êtes Forrest. Donc je pense à mes lecteurs, et voilà. Bon, il se trouve que, sans rentrer dans les détails, à un moment, Forrest a continué à travailler pour Pilote, et à un moment, Goscinny a dit, vous me le virez.
Barbarella correspondait d'un point de vue esthétique au code du temps, à cette modernité venue des États-Unis, aux super-héros mais extrêmement érotisés.
C'était surtout le côté érotique, évidemment, qu'on retrouve. Falbala, ok, c'est bien gentil, c'est un personnage féminin, mais il n'y a pas cette liberté de ton, il n'y a pas ce côté science-fiction, donc à cheval entre les différentes contre-cultures, qu'il y a Forrest. Mais c'est vrai qu'à un moment, je dirais que la série Astérix est devenue presque, je dirais, un classique.
Académique,
voilà, tout à fait, c'est l'expression académique, alors que les expériences se faisaient ailleurs.
Jean-Claude Lescure, notre hôte, initiateur de cette journée d'hommage et de célébration.
Donc voilà, Albert Uderzo, je voulais vous dire que bon, voilà, c'est un immense honneur que vous faites à cette université, et où tous les jeunes sont des petits Goscinny et des petits Uderzo, c'est-à-dire des fils d'immigrés d'aujourd'hui, des enfants de la banlieue qui cherchent leur voie. Et on est là pour cette ascension sociale, pour leur permettre de se réaliser leurs rêves. Et vraiment, votre présence ici, c'est la preuve que bon, voilà, des fils d'immigrés peuvent réussir, et que c'est aujourd'hui par l'université, avec son absence de sélection, sa promotion sociale, son insertion professionnelle, qui est là et qui permet à ces gamins de banlieue de devenir les futurs cadres de la nation. Donc c'est à cette occasion-là que nous avons pris la décision de vous remettre le diplôme d'honneur de docteur de l'Université Paris 13. Merci, monsieur.
C'est moi qui vous remercie.
Le fait que ça soit des enfants d'immigrés qui deviennent des Gaulois résistants à l'Empire romain, donc des Gaulois, des futurs Français.
Natacha Lillot, spécialiste de l'histoire de l'immigration.
Côté franchouillard avec les banquets, les bagarres. Que ça soit des fils d'immigrés qui fassent ce personnage-là, quelque part, ça rend hommage aux capacités d'intégration qu'a pu avoir la France dans les années 20-30, et même, je pense, jusqu'aux années 50-60. Par l'école, par alors toute une série après de modalités de choses qui pouvaient être l'existence d'un parti communiste fort, par le syndicalisme, par la... Enfin, il y avait toute une série de modalités qui permettaient l'intégration. Et aussi parce que jusqu'en 70, on est dans une société, enfin c'est les 30 Glorieuses, et on est dans une société où on va vers le progrès. C'est-à-dire qu'en général, les pères sont manœuvres, cimentiers, ouvriers de base, enfin... Les fils vont acquérir un véritable emploi. Et donc, vous avez vraiment là quelque chose qui est très net, c'est le passage d'une génération à l'autre avec une ascension sociale.
Je crois que je vais tout de même boire un petit coup de potion magique. L'avenir du village est en jeu, après tout.
Emmanuel Bélanger, vous faites une communication intitulée « De l'esprit village à la ville moderne » dans cette journée consacrée aux Gaulois, à Bobigny et à Uderzo. Vous avez regardé comment Uderzo, justement, parle de Bobigny?
Alors, il en parle relativement peu. On sent bien que cette cité du Pont de Pierre, c'est un monde à part, ce qui est une réalité, hein, puisque c'est une cité qui reste enclavée. Hein, les liens entre... Il n'y a pas de centralité réellement à Bobigny.
C'est le lieu où il habite.
Voilà, c'est le lieu où il habite, voilà. Et donc, mais par contre... On sent, par exemple, qu'il ne porte pas particulièrement à cœur les communistes. Hein. Enfin, c'est un lien qu'on pourrait encore également faire.
Et les gens de gauche
Et les gens de gauche, en général, c'est ce qu'il dit en effet dans un de ses entretiens. Et d'ailleurs, au final, il quittera Bobigny, et puis il habitera dans une autre cité à l'entre-soi bien prononcé. C'est, je pense, à Neuilly-sur-Seine. Hein, donc là, on n'est plus du tout dans la ville typée populaire. On passe vraiment à la ville à l'entre-soi bourgeois affirmé. Donc c'est bien sûr un autre monde. Mais cette cité du Pont de Pierre a semble-t-il quand même marqué son histoire. En tout cas, elle marque le début de l'histoire d'Astérix.
Et quels sont les acteurs qui organisent cette journée scientifique intitulée Drôle de Gaulois ?
Les partenaires de cette initiative, de ces célébrations mémorielles, on pourrait presque dire. Hein. Donc, il y a la ville de Bobigny, le conseil régional d'Île-de-France, la Seine-Saint-Denis, le conseil régional de la Seine-Saint-Denis, le patronage très significatif de l'Université de Paris 13 et du campus de Bobigny. C'est pour ça que c'est assez surprenant de voir comment les choses évoluent et ce qui était inimaginable dans les années 60, 70, même encore 80, à savoir qu'une mairie communiste s'approprie cet héritage d'Uderzo et Goscinny sur d'Astérix. C'est vrai qu'on mesure à quel point, y compris le paysage et les mentalités politiques, ont pu évoluer.
Et comment on peut expliquer cette captation d'héritage, justement ? Par cette mairie communiste de ce petit personnage Astérix.
Alors là, on est certainement dans une logique de faire valoir municipale, de patrimonialisation également, donc des cités, des premières cités d'habitat collectif qui sont ainsi valorisées. Aujourd'hui, on a une relecture de la Seine-Saint-Denis qui tente à falsifier, en tout cas à stigmatiser cette période des Trente Glorieuses. En tout cas, on colle la réalité notre réalité où en effet l'intégration elle est difficile avec l'expérience des Trente Glorieuses où au contraire hein, on avait quand même un ascenseur social qui permettait à des enfants issus de l'immigration, donc en l'occurrence de l'immigration italienne, de faire école et puis de s'intégrer, de faire France. Oui.
On fait de vous aujourd'hui une success story, un modèle d'intégration, puisque vous êtes fils d'immigrés italiens, Albert Uderzo. C'est pas un peu vertigineux comme place à assumer ?
Je m'attendais à cette question. Oui, vous voyez, il y a une particularité en ce qui concerne les auteurs d'Astérix, c'est que Goscinny était d'origine polonaise, et moi, d'origine italienne, et on tape sur la tête j'ai l'air de taper sur la tête de mes ancêtres.
Et sous la lune, le traditionnel banquet réunit tous les habitants du village gaulois. Tous. Ah non, j'en oublie un. Assurance Tourix. Le barde.
Les lâches me ligotaient et cachaient ma lyre. J'avais composé une ode triomphale. La 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 la.
Hé hey,
la,
la, la, Assurance Tourix.
La, 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 la,
le disque
la,
est fini.
La, la, la,
le
la,
disque
la,
est
la,
fini.
La, la, la.
Merci à Pascal Aurin, Patrick Gomer, Nicolas Rouvière, Albert Uderzo, Jean-Claude Lescure, Catherine Page, Natacha Lillot, Emmanuel Bélanger, Didier Passamonique et aux habitants de la cité du Pont de Pierre. Prise de son Olivier Leroux, mixage Claire Levasseur. Archivina Aurélie Marsay et Marie Jarros. Astérix, fils du 9-3, Anaïs Quien et Véronique Samouilov.
Et merci à Anaïs Quien et Véronique Samouilov de terminer ainsi cette semaine gauloise avec ce dernier avatar du Gaulois dans notre société contemporaine, ce fils de dessinateurs, ces dessinateurs et ces scénaristes immigrés. C'était donc la Fabrique de l'Histoire. Demain, nous nous retrouvons pour un hommage à Pierre Chaunu.